Culture Académie, les sciences humaines.
IRSEM, projection de force et de puissance de l'Antiquité à nos jours. Expédition de Sicile, la projection de la puissance athénienne durant la guerre du Péloponnèse. Avec Patrice Brun.
Je vous rappelle le thème de ce cycle, c'est d'étudier ce qu'on appelle dans le vocabulaire militaire d'aujourd'hui la notion de projection de puissance. Ce qu'on, par exemple, au XIXe siècle, on appelait des corps expéditionnaires. Vous voyez, les vocabulaires changent selon les époques. Hein. C'est important. D'ailleurs, quelquefois, les concepts, on pense qu'ils se sont les mêmes derrière des mots différents, mais quelquefois, les mots représentent des concepts également différents. Et souvent, on s'aperçoit que quand on veut plaquer un concept d'aujourd'hui sur d'autres époques, ça fonctionne moyennement bien. Par exemple, quand on avait vu avec les Vikings, on s'est aperçu que finalement, la notion de projection de puissance dans le monde scandinave du haut Moyen-Âge fonctionne pas très bien. En fait, ça correspond pas exactement. On s'est aperçu ensuite, d'ailleurs, que pour la période médiévale, il y aurait eu un autre exemple historique qui aurait beaucoup mieux correspondu. À cette notion actuelle de projection de puissance, ça aurait été les chevauchées du prince noir. Vous savez, dans le sud-ouest de la France, au XIVe siècle, où effectivement le prince noir et ses troupes avancent en territoire français, ravagent tout sur leur passage, mais leur but n'est pas de conquérir, n'est pas non plus de faire du pillage, du simple pillage, même si au passage ils en profitent, bien sûr, mais... L'idée, c'est on ravage le pays jusqu'à temps que le roi de France cède à la proposition diplomatico-stratégique qu'on lui a faite. Hein ? Ça, c'est de la projection de puissance. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'obtenir un but politico-stratégique. C'est ça. Donc, aujourd'hui, nous recevons le professeur Brun, qui est président de l'université de Bordeaux 3, qui est venu spécialement pour nous, qui repart tout à l'heure, donc merci. Et qui est un spécialiste de la guerre dans le monde grec antique, de la Grèce de la période classique, hein, puisque je vous rappelle que dans le monde grec, je parle sous votre contrôle, professeur, on distingue généralement trois périodes, la période archaïque, mycénienne, la période classique et la période hellénistique. Donc un spécialiste de la période classique grecque et de la guerre dans ce monde grec classique, et qui va nous parler aujourd'hui d'un épisode particulièrement important qui a été l'expédition athénienne sur la Sicile. Expédition qui s'inscrit dans le cadre d'un grand conflit extrêmement important du monde grec, qui est la guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse, juste un mot, je ne vais pas vous faire une histoire de la guerre du Péloponnèse, mais juste un mot pour vous dire que c'est une guerre extrêmement importante, non seulement pour l'histoire de la Grèce en tant que telle, mais tout le monde n'est pas obligé de s'intéresser à l'histoire de la Grèce. Mais je peux vous dire que, par exemple, dans les écoles d'officiers américaines, depuis une vingtaine d'années, la lecture de Thucydide, la guerre du Péloponnèse, hein, le maître ouvrage de Thucydide, est une lecture obligatoire. Parce que c'est un exemple quasiment parfait, encore aujourd'hui, pour les officiers, ou pour les gens qui s'occupent de problèmes stratégiques, de relations internationales, diplomatiques, etc. C'est un exemple quasiment parfait de guerre, non pas de guerre totale, bien sûr, mais de guerre complète. Un petit peu comme il y aurait du pain complet, si vous voyez ce que je veux dire, si vous me permettez cette métaphore, c'est-à-dire une guerre où effectivement tout, bon, vous me direz, c'est le cas dans toutes les guerres, mais là, c'est surtout dans l'ouvrage de Thucydide, c'est particulièrement prégnant, c'est de guerre où effectivement on voit parfaitement l'interaction totale et permanente entre les actions militaires, purement militaires, si j'ose dire, le politique, le diplomatique, le stratégique, etc. Et où tout interagit, et c'est à ce titre-là, c'est un... Alors on dit l'histoire ne donne pas de leçons, certes, mais en tout cas c'est une lecture fortement recommandée. Je pense que c'est pas un hasard si dans le cadre de l'Institut de recherche stratégique de l'histoire militaire, de l'école militaire, pardon, on a décidé de, dans ce cadre de ce cycle, de choisir un exemple dans cette guerre du Péloponnèse. Voilà. Je vous remercie. Professeur, vous avez la parole pour une heure.
Bien, ben, puisque dans nos remerciements, c'est moi qui vous remercie aussi, puisque comme vous avez souligné que, effectivement, depuis 2 ans, je suis président de l'Université de Bordeaux 3, ce qui n'est pas toujours simple. Et je dirais, cette invitation m'a permis de me replonger dans les textes. Et d'une certaine manière, je vous remercie de m'avoir permis de travailler vraiment. parce que, disons que ça m'a un peu aéré l'esprit, et on en a besoin lorsque on ne fait pratiquement que du texte administratif. Bien, alors, je crois qu'effectivement, la charte d'aujourd'hui, c'est de effectivement parler de projection, j'ai bien senti, projection de la puissance militaire, projection des forces armées, avec évidemment, comme vous l'avez dit, le risque de tomber peut-être un peu parfois dans l'anachronisme. Parce que dès lors qu'on parle de projection, on risque d'avoir, si vous voulez, des images actuelles. C'est le pouvoir, et parfois le mauvais pouvoir des mots, que de vouloir de nous obliger, en quelque sorte, à plaquer des faits bien connus de nous, enfin des pensées, des concepts bien connus de nous, sur des réalités antiques. Ça s'appelle l'anachronisme. Il faut y faire très attention. Mais en même temps, on va voir quand même que l'histoire permet aussi des rapprochements. Il est hors de question de dire qu'il faut que l'histoire est une sorte de perpétuel recommencement. Ça n'aurait aucun sens. Ça serait quand même assez stupide. Mais en même temps, on va voir quand même que, d'abord, sans tomber dans une philosophie facile, les hommes ont toujours été les hommes et que le pouvoir exerce sur l'humanité une sorte de constante. Et ça va nous permettre, si vous voulez, au travers de cet exemple de la Sicile, de voir finalement comment une force militaire parfaitement bien au point a pu échouer à ce point. Vous savez, il y a, c'est pas l'école militaire que je vais apprendre ce vieux dicton, on dit que ce sont les militaires qui gagnent la guerre et que ce sont les civils qui la perdent. C'est difficile de le faire pour Athènes, parce qu'on va le voir, les militaires et les civils, ce sont les mêmes. Mais on va voir qu'effectivement, les erreurs politiques, plus que les erreurs stratégiques, sont finalement à l'origine de ce qui aurait pu être un véritable succès sans nom pour les Athéniens. Alors, il faut nous replonger d'abord sur cette expédition de Sicile en 415 et essayer de voir un peu quel est ce contexte historique du monde grec en 415. En 415 avant notre ère, la cité d'Athènes est à l'apogée de sa puissance militaire. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide, par un vote de ses citoyens, de lancer une vaste opération contre la cité de Syracuse. Alors, vous avez tous la carte, hein, il aurait été peut-être plus pédagogique de le montrer, mais bon, n'y revenons pas. Hein. Je vais utiliser, si vous voulez, un certain nombre de termes géographiques, de lieux géographiques, et c'est très important parce que ça nous permet un petit peu de fixer un certain nombre de choses. Alors vous voyez de suite que c'est très éloigné. C'est très éloigné à une époque où la navigation se fait à voile et à rame. Cette vaste expédition, c'est d'abord contre la cité de Syracuse, qui est la plus importante des cités de Sicile. Elle n'est pas la capitale de la Sicile. La Sicile, comme la Grèce, est constellée de cités indépendantes. Mais c'est la cité, d'une part, la plus puissante, et puis elle est toujours, et depuis fort longtemps, alliée de Sparte. Or, Sparte est évidemment, d'abord, l'ennemi d'Athènes dans cette guerre du Péloponnèse, comme j'aurai l'occasion de le voir. Alors, pourquoi venir? Comment venir? Eh bien, Athènes saisit un prétexte, c'est toujours pareil, vous savez, un impérialisme a toujours besoin d'un prétexte. Vous vous souvenez sans doute, en 1979, l'URSS, pour intervenir en Afghanistan, avait vaguement parlé de l'appel, hein, il s'appelait Najibullah, je crois, c'est ça, le chef de l'État afghan, qui avait appelé, évidemment, les Russes. Donc il y a toujours besoin d'un prétexte, et le prétexte, c'était celui de la petite cité occidentale, la plus occidentale des cités siciliennes, Égeste, qui était menacée par sa rivale méridionale, Célinonte. Évidemment, on voit, il y a une disproportion complète entre une guerre comme il en existait, mais je dirais en permanence dans le monde grec, en permanence, une disproportion complète entre une guerre locale et le conflit très important qui sera celui de l'expédition de Sicile. La disproportion donc entre les deux montre que cette demande évidemment ne fut qu'un prétexte dans lequel les Athéniens s'engouffrèrent. Alors cette expédition, par nature, devait être maritime, et elle n'a pas dans l'histoire grecque de correspondant. Tant fut considérable la force militaire lancée dans l'aventure, le nombre pour l'époque de combattants, tant fut élevé sans doute aussi l'espérance impérialiste des Athéniens étant aussi, fut dramatique son issue. Alors que la cité pouvait compter en 415 quelque chose comme 50 000 citoyens, 20 000 soldats, citoyens, furent lancés dans l'aventure, auquel, bien entendu, il faut ajouter un nombre presque équivalent d'alliés et de mercenaires, comme je vous le montrerai, et sur ces 20 000, moins d'un sur 20 revint sain et sauf dans la cité. Je ne sais pas si vous mesurez un petit peu ce que ça peut représenter, une perte de 95% des forces envoyées en expédition. Alors cette expédition lointaine, d'ailleurs, n'a guère d'équivalent dans l'histoire ancienne. Il y en a deux, mais au niveau de projection, je pense qu'on pense en premier à l'expédition d'Alexandre, mais c'est une opération de conquête, et c'est quand même assez différent. Par contre, dans l'histoire ancienne, nous en avons une, c'est l'expédition d'Hannibal. Hannibal, vous savez, qui part de Carthage, c'est-à-dire de l'actuelle Tunisie, qui longe la côte d'Afrique du Nord, qui traverse le détroit de Gibraltar, qui, avec ses éléphants, vous le savez, c'est bien connu, remonte l'Espagne, les Pyrénées, les Alpes, et descend jusqu'à Rome, et même plus bas, puisqu'il va jusqu'à Capoue, on le sait bien. Donc, si vous voulez, mais tout ça, ça se passe quand même quelque chose comme à peu près deux siècles après l'expédition athénienne. Vous voyez, finalement, il y a très peu d'exemples. L'exemple d'Hannibal étant à peu près la seule que l'on puisse donner comme équivalent. Alors, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est d'étudier un petit peu les conditions historiques, techniques et logistiques de cet envoi, en m'appuyant d'abord sur les écrits d'un historien, Thucydide, qui est un historien athénien, qui ne fut pas, comme on pourrait le croire, peut-être un peu comme, pour ceux qui connaissent les mémoires du sergent Bourgogne, le plus célèbre des biographes, enfin pas des biographes, enfin en tout cas des commentateurs, des témoins de l'expédition, de la campagne de Russie. Il n'a pas été témoin direct de l'aventure, mais il est quand même contemporain des événements. Et il a décrit ces événements, il a réussi à se renseigner aux meilleures sources, orales du temps, bien entendu, ce qui explique la précision des renseignements dont je vous parle, que j'évoquerai un petit peu, précision du renseignement ou dans laquelle la tactique, la stratégie a toujours sa part. Et comme l'a signalé M. Henninger, effectivement, Thucydide est étudié à West Point, d'autant plus étudié qu'un nombre non négligeable d'anciens combattants du Vietnam sont devenus des historiens de l'Antiquité, et notamment des historiens de la guerre. Il y a là, je dirais, un certain nombre de... C'est tout à fait intéressant ce lien entre la guerre du Vietnam et l'étude de la guerre en Grèce, et notamment un certain nombre de soldats. Il y en a un qui a écrit « From Melos to Milai », de Melos, qui est un massacre en 416 avant Jésus-Christ, à Milai, qui est un massacre célèbre de tout un village vietnamien en 1971 ou 1972, je ne me souviens plus très bien, 68 je crois. 68, voilà. Et c'est au-delà de ce rapprochement, on voit bien que Thucydide est vraiment un guide extrêmement sûr pour des études de nature militaire. Alors, en 415, les Athéniens, lorsqu'ils décident de se lancer dans cette aventure militaire, sont dans ce qu'on appellera une paix précaire. Alors, évidemment, dans le monde grec, la paix est toujours précaire. D'abord, il faut quand même savoir que jusque dans les années 380, par exemple, il n'y a pas de terme pour désigner la paix. On connaît uniquement le terme de spondé, qui veut dire la trêve. C'est un signe, si vous voulez. Lorsque les deux belligérants sont en paix, en réalité, sont dans une trêve qui est limitée dans le temps. Alors elle peut être d'un jour, de 30 jours, de un mois, d'un an, parfois de 30 ans, mais dans l'esprit, c'est toujours une trêve. Ce qui fait que la guerre est perçue comme un phénomène naturel. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire, je dis souvent à mes étudiants, n'écrivez jamais que la paix a été signée. D'abord, elle est jurée, une trêve est jurée, et n'est évidemment jamais signée. Alors, depuis 421, donc, cette paix précaire a été jurée entre d'un côté Athènes et ses alliés, et Sparte et ses alliés. Si on regarde la carte, les alliés de Sparte, c'est le Péloponnèse pour l'essentiel, hein, et les alliés d'Athènes, c'est toutes les îles de la mer Égée, et la partie maritime de l'Asie mineure, la Carie, l'Ionie, toute cette zone de maintenant de la Turquie méditerranéenne. Depuis 421, donc, c'est une trêve, et cette trêve de 421 a été jurée en fait de guerre lasse, parce que la guerre du Péloponnèse a commencé en 431, et pendant 10 ans, les succès et les échecs des uns et des autres se sont succédés. Il n'est pas question de faire l'histoire de la guerre de Péloponnèse entre 431 et 421, mais en 421, les deux cités totalement épuisées, à la fois, je dirais, humainement par les pertes, mais surtout, du côté athénien, par un épuisement de nature financière, ont juré cette trêve. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, ce sont des cités affaiblies qui avaient cessé les hostilités en 421, et entre 421 et 415, Athènes a reconstitué certaines de ses forces. Alors d'abord, démographique. Il est extrêmement difficile de faire une démographie dans l'Antiquité. C'est à la louche qu'on peut donner des chiffres, et encore, la louche, non seulement elle est grosse, mais en plus elle est percée de partout. Donc c'est vous dire à quel point est assez difficile, mais les historiens se sont à peu près, si vous voulez, ont considéré que vers 431, Athènes pouvait avoir aux alentours de 60 000 citoyens, ce qui est considérable pour l'époque, hein, puisque la cité ensuite qui vient derrière, c'est Sparte, qui n'a à ce moment-là environ que 5 000 citoyens. C'est vous dire l'écart, hein, ça ne signifie pas, attention, je parle de citoyens, pas d'habitants, ni même de combattants, forcément, je parle de citoyens. Les citoyens, dans une démocratie comme Athènes, il y a la citoyenneté est assez très élargie. À Sparte, la citoyenneté, au contraire, est extrêmement réduite. Mais le nombre de combattants potentiels n'est pas de cet écart de 5 000 à 60 000. Hein. Les Athéniens avaient, entre 431 et 421, été soumis à une guerre assez difficile, d'autant plus difficile que retranchés dans leurs murs, assiégés par les Spartiates, une épidémie, alors que l'on traditionnellement on appelle une épidémie de peste, mais qui est probablement une sorte de typhus, a balayé plusieurs milliers d'habitants. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, compte tenu de la croissance démographique qui est quand même forte à Athènes, on arrive à penser que dans les années 415 à peu près, il y reste encore quand même 50 000 citoyens, ce qui est considérable, qui en fait la cité, j'insiste, la plus peuplée du monde grec. La reconstitution d'Athènes en 415 est également d'origine financière. Athènes possédait pour l'époque des revenus considérables qui reposaient pour l'essentiel sur deux piliers, d'abord des richesses intérieures, de très très riches mines d'argent. L'argent est à l'époque le métal qui permet de monnayer, hein, de battre monnaie, et également le tribut qu'elle imposait à ses alliés de la Ligue. En 431, au moment du déclenchement des hostilités, le trésor de la cité se montait à quelque chose comme 6 000 talents d'argent, ce qui fait à peu près 156 tonnes d'argent. C'est évidemment colossal pour l'époque. Il n'y a guère qu'à l'époque d'Alexandre où on verra des concentrations aussi importantes d'argent monnayé. En temps de paix, ces sommes colossales avaient servi par exemple à construire les grands monuments de l'Acropole que nous connaissons bien, mais en temps de guerre, l'essentiel de ces revenus et du trésor donc ainsi amassé, avait permis de payer les expéditions militaires régulières engagées par la marine, et donc aussi de payer, bien entendu, les bateaux, d'acheter, de construire les bateaux nécessaires à ces expéditions. Si en 421, le trésor était pour ainsi dire vide, en 415, la paix revenue avait permis de reconstituer une partie des richesses initiales, et un certain nombre d'inscriptions que nous avons conservées nous permettent de dire qu'il y avait encore quelque chose comme à peu près 3000 talents, c'est-à-dire 80 tonnes d'argent monnayé. Ce qui permettait, bien entendu, de se lancer dans une expédition qui ne serait pas payée uniquement par les Athéniens. Mais au-delà de ce contexte rapide, si vous voulez, il y a un contexte plus lourd, qui est celui, non pas de la guerre contre Sparte, mais le contexte d'un impérialisme athénien. Depuis 480, depuis la fin des guerres médiques, vous savez, il y a eu deux guerres médiques, Marathon 490, et puis la seconde guerre médique avec la bataille des Thermopyles et la bataille de Platée, les Athéniens ont développé une politique impérialiste qui les a menés à agréger de force autour d'eux des alliés. Thucydide dit que progressivement, les cités qui étaient auparavant des alliés sont devenus des sujets. C'est-à-dire qu'il y a un véritable impérialisme. Il ne faut surtout pas imaginer qu'il y a une liberté des alliés à entrer dans la Ligue. Ils ont été tenus de force. Et ce qui signifie, si vous voulez, que cette Ligue est une arme impérialiste au service exclusif des Athéniens. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre l'expédition de Sicile. La Ligue de Délos va être une sorte d'outil militaire, hein, de marteau, si vous voulez, qui va permettre, en principe, d'écraser la Sicile. En fait, il ne faut pas se leurrer, l'impérialisme est un système de fonctionnement diplomatique. Ce n'est pas que militaire, c'est aussi diplomatique, et les Athéniens, d'ailleurs, avec ce que nous appellerions un certain cynisme, trouvaient tout à fait normal, parce qu'ils étaient les plus forts, de dominer leurs voisins. Cette décision, la décision d'envahir la Sicile, n'a pas été prise sans opposition, loin de là. En fait, il y a deux hommes qui s'affrontent en 415 devant l'Assemblée, parce qu'il faut imaginer qu'à Athènes, la décision n'est pas prise dans le cadre d'un petit cabinet ministériel, ni même devant le Parlement, mais elle est prise devant tout le monde, c'est-à-dire 8, 10, 12 000 citoyens qui vont voter pour faire ou non la guerre. Et c'est quand même très important, parce que celui qui vote pour faire la guerre, il va y partir. Tous les députés qui ont voté la guerre en 1914 ne sont pas partis sur le front. C'est quand même très important, parce que ça montre, si vous voulez, que la guerre est vraiment considérée comme quelque chose d'assez normal. Parce que si tous ceux qui doivent voter la guerre doivent y partir le lendemain, je ne sais pas si forcément le vote serait aussi évident. À Athènes, oui, il l'a été. Et pourtant, ça n'a pas été simple, parce qu'il y avait deux visions de l'impérialisme. Un impérialisme que je dirais défensif, ou plutôt attentiste, qui est représenté par un certain Nicias, qui a donné d'ailleurs son nom à la paix de Nicias, en 421. Il a montré, je dirais, sa réticence à plusieurs reprises à cette expédition dont il voyait qu'elle était difficile, dangereuse, lointaine, et qui comportait des risques. Et il a face à lui un jeune homme au sens grec du terme, c'est-à-dire qu'il a 30 ans, puisqu'il peut s'exprimer à l'Assemblée, donc c'est qu'il vient de passer ses 30 ans. Il s'appelle Alcibiade. Bien connu aussi, d'abord pour être le neveu de Périclès, encore plus connu, et Alcibiade, qui s'y montre favorable avec une grande véhémence. Il est le représentant de ce qu'on appelle un impérialisme, lui, agressif. Un impérialisme qui, au sens premier du terme, est un véritable impérialisme, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais. Le plus curieux de l'affaire, pour nous, parce qu'on ne saisit pas forcément l'analyse de ce que fait la situation que fait une assemblée du peuple. Le plus curieux de l'affaire fut que les Athéniens donc désignèrent les deux hommes comme généraux de l'expédition militaire. Les deux hommes. Celui qui est favorable à l'expédition et celui qui est le plus réticent. Alors, vous imaginez donc de suite une erreur que l'on pourrait considérer comme assez stratégique que de mettre comme co-stratège de l'expédition quelqu'un qui n'y est pas favorable. Dans ce temps, c'était pourtant assez chose normale, et le pouvoir politique comme militaire, d'ailleurs, était partagé entre plusieurs magistrats. Il n'y a pas un stratège qui commande l'armée, mais plusieurs, et par conséquent, parce que grande était la crainte de la tyrannie dans le monde grec, hein, et donc c'est la raison pour laquelle il y avait plusieurs stratèges, mais c'est vrai que ça nous paraît curieux d'avoir mis deux stratèges aussi opposés. Alors partir en Sicile, dans le but de conquérir les cités qu'il a composées, n'était pas une décision facile à prendre. Et d'ailleurs, il n'est pas sûr, il est même à peu près certain, que le but des Athéniens n'était pas de conquérir, au sens strict du terme, la Sicile, c'est-à-dire éventuellement de faire une conquête suivie d'une colonisation. C'est en fait plutôt dominer la cité, dans un but, à la fois militaire, bien entendu, mais surtout politique, qui était d'asphyxier Sparte. Asphyxier Sparte, pourquoi ? Eh bien parce que la Sicile est une terre à blé et qu'une partie non négligeable du blé consommé à Sparte venait de Sicile. Les Athéniens ont un but, c'est couper l'approvisionnement de Sparte en blé et évidemment aussi dominer politiquement les cités de Sicile et leur imposer un tribut. C'est-à-dire en fait, tout ce que les Athéniens voulaient, qui manquait aux Athéniens, le blé, parce qu'à Athènes aussi, le blé est rare. Vous savez, la Grèce, certains d'entre vous ont dû aller en Grèce, la Grèce n'est pas une terre à blé, hein. C'est pas la Beauce. Hein. C'est vraiment une zone où les rendements sont assez pauvres, et donc il y a une fin de terre, une fin de blé au sens strict du terme, et les tribus, les Athéniens, voulaient absolument récupérer toutes les richesses possibles. Alors, vous voyez donc quel est le but politique. Hein, c'est un but, je dirais, qui est plus politique que militaire. Il n'y a pas d'idée de colonisation derrière, comme par exemple avec Alexandre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourtant, évidemment, les incertitudes, et c'est ce que Nicias a tenté de faire valoir, les incertitudes étaient très grandes, car très peu d'Athéniens connaissaient cette île, située à plusieurs jours de voyage du Pirée, le port d'Athènes. Très peu, on va le voir, connaissaient sa géographie, son histoire. Alors, d'abord, le principal problème, c'était la distance à parcourir. En effet, du Pirée, le port d'Athènes, jusqu'à la côte orientale de la Sicile, il faut entre 7 et 10 jours de navigation, selon les normes antiques. Parce que le trajet ne se fait pas... D'abord, il y a deux handicaps. Le trajet, d'abord, ne se fait pas d'un seul trait. Les bateaux antiques sont très mal calfatés, très très mal calfatés, l'eau passe de partout. Et ils ont besoin donc d'être mis au sec souvent, et notamment la nuit, il faut tirer les bateaux au sec. Et la navigation de nuit, même si elle est connue, est donc assez peu pratiquée. Le trajet non plus n'est pas rectiligne. On imagine que les Athéniens quittant le Pirée doublent le cap de Cythère et ensuite ils tireraient droit vers l'ouest, vers la Sicile. Pas du tout. Compte tenu précisément du fait qu'il faut tirer les bateaux au sec à peu près tous les soirs, eh bien, les forces athéniennes ont donc contourné le Péloponnèse et sont remontées jusqu'à Corcyre. Quand vous voyez où la carte, c'est l'île la plus au nord de la mer Ionienne. Corcyre, c'est l'actuel Corfou. Hein. Et de Corcyre, ils traversent le canal d'Otrante. Le canal d'Otrante, c'est le détroit entre l'Italie et la Grèce. Puis ensuite, ils suivent ensuite encore la côte italienne, toute la botte italienne, pour arriver à Régione, Reggio de Calabre maintenant, qui est un endroit, si vous voulez, où, effectivement, à partir de là, la conquête de la Sicile pouvait être envisagée. On n'oubliera pas non plus que les marines antiques sont incapables de naviguer dans les allures au près. Incapables. Le mât est fixe. Les mâts est fixe, donc on ne peut naviguer que dans les allures portantes. Handicap supplémentaire, il n'y a pas de quille. Ben non, il faut tirer les bateaux tous les soirs, donc pas de quille. C'est à peu près impossible. Donc en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de problèmes, il faut attendre des vents favorables. Vous connaissez la légende, enfin plutôt exactement le mythe, hein, qui autour d'Iphigénie, hein, au départ de la guerre de Troie, les vents sont défavorables, on ne peut pas partir, la flotte qui doit partir à Troie ne peut pas partir, eh bien Agamemnon décide de sacrifier sa fille Iphigénie pour que les dieux lui accordent des vents favorables. Bon, au-delà du mythe, si vous voulez, on voit bien que les marines sont bloquées par des vents non favorables, défavorables. Alors certes, il y avait des rames, mais le bateau de guerre grec, la trière, ne supporte pas le gros temps, ni même une mer un peu formée. À partir de vagues d'un mètre cinquante à peu près, on a retenté un peu, on a refait des trières, puisqu'on connaît bien le principe de la trière maintenant. Eh bien, à 1,50 m, l'eau passe régulièrement au-dessus, et c'est extrêmement difficile. Alors l'autre difficulté, bien entendu, c'est l'importance numérique des troupes mobilisées. Alors, sans doute ne faut-il pas, je dirais, s'illusionner sur les notions de logistique de l'Antiquité. D'abord parce qu'il n'y a aucun mot en grec qui, de près ou de loin, existe pour cerner cette notion très moderne. Donc, il faut encore moins imaginer qu'il y a quelque chose qui ressemble de près ou de loin aux manières modernes de procéder. Il ne faudrait pas non plus, sous prétexte de dire « ne faisons pas trop d'amalgame avec la situation contemporaine », imaginer non plus qu'il n'y avait rien, que les Athéniens sont partis comme ça à l'aventure. Évidemment pas, parce qu'on va voir que les Athéniens ont largement innové et surtout montré leur capacité à anticiper des problèmes que nous appellerions maintenant, nous, à présent, logistiques. Alors d'abord, il faut quand même bien savoir que dans l'Antiquité grecque, en principe, l'État ne s'occupe traditionnellement de rien. Pour la guerre. Il n'y a pas d'uniforme. L'uniforme, c'est les soldats, n'existe pas dans l'Antiquité. Il faut attendre l'armée romaine pour en voir, et les soldats grecs s'équipaient eux-mêmes. Tout l'équipement dont je vais parler dans un instant appartient au soldat lui-même. On se le transmet en général de génération en génération quand on peut. Et l'État ne s'occupe pas d'uniforme, il ne s'occupe pas non plus de nourriture. Chaque soldat, notamment chaque fantassin, bien entendu, devant apporter avec lui la nourriture pour une durée de jours déterminée. À charge ensuite pour l'armée de se nourrir sur le pays ennemi, souvent par des pillages ou par des réquisitions. Deux pratiques, d'ailleurs, qui nous paraissent maintenant un peu bizarres, puisqu'elles sont théoriquement interdites par ce qu'on appelle généralement la Convention de Genève, mais qui étaient tout à fait normales à l'époque. Piller le territoire ennemi était quelque chose de normal. D'ailleurs, s'enrichir par la guerre était nullement condamnable, et même Aristote dit dans le chapitre sur l'économie, un traité de l'économie, il dit que la guerre est un moyen naturel d'acquisition de richesses. Pour la marine, évidemment, tout était différent. Tout était différent. Et c'est là où on voit, si vous voulez, l'organisation d'une cité comme Athènes, une cité maritime, qui fournit le navire, qui fournit les équipements, c'est-à-dire le mât, les voiles, les rames, et la nourriture, elle, devait être embarquée aussi sur des navires. C'était donc là aussi l'affaire des autorités. Alors la guerre, puisqu'il faut bien parler maintenant de la guerre et de cette projection des forces, la guerre en Grèce, et la guerre et l'expédition de Sicile est tout à fait claire là-dessus, est extrêmement diverse, beaucoup plus d'ailleurs qu'on ne pourrait le croire trop souvent. Elle s'exprime à la fois sur terre et sur mer, avec une importance égale, surtout à Athènes. Alors sur terre, la force essentielle des armées grecques consistait dans ce qu'on appelle la phalange. Alors, la phalange, c'était un... Bon, je vais vous passer, mais c'est dommage qu'on n'ait pas... Enfin, on ne va pas encore le regretter, mais c'est... La phalange était un groupe très compact de fantassins lourdement armés, que l'on appelait les hoplites. Les hoplites étaient armés de jambières, une sorte de protège-tibia en bronze, d'une cuirasse, qu'on appelait un thorax, qui était soit une cuirasse totalement de bronze, ou alors avec des plaques de bronze réunies les unes aux autres, un grand casque, et surtout aussi, lui aussi en bronze bien entendu, et surtout, pour compléter l'équipement défensif, un très large bouclier rond et convexe qui était tenu par le bras gauche. Ce bouclier s'appelle l'oplone, et d'ailleurs, si on a appelé le soldat l'oplite, c'est parce qu'il se distinguait précisément par ce large bouclier rond. L'armement offensif consistait en une pique d'à peu près 2 mètres. Je dis bien une pique et pas une lance, parce que, par définition, la lance, ça se lance, hein, et la pique, c'est... ça pique. Donc c'était vraiment une arme, c'est une arme d'estoc. C'est pour le combat de près, souvent on utilisait d'ailleurs aussi une épée courte, également une arme d'estoc. Les Grecs ne connaissent pas le gladius, le glaive romain, qui est une arme à la fois de taille et d'estoc. Les Grecs ne connaissaient que l'arme d'estoc. Alors, vu de face, l'ensemble formait une masse impressionnante, sans espace, hérissée de lances sur plusieurs rangs de profondeur. L'hoplite protégeait son compagnon de gauche, ayant le grand bouclier dans la main gauche, donc il protégeait son compagnon de gauche, et il était en même temps protégé par son compagnon de droite. Ce qui signifie que pour être efficace, la phalange devait marcher de même pas. Et ce même pas, cette cadence, était donnée par le général, commandant, celui qu'à Athènes on appelle le stratège, en grec stratège, ça veut dire celui qui mène l'armée, qui était dans la partie dans la zone la plus exposée, au premier rang, à droite, c'est-à-dire sans aucune protection sur sa droite. Contre une armée d'hoplites, c'était en réalité une poussée, agrémenté, si je puis dire, de coups de lance portés à l'adversaire qui faisait face. De nombreuses batailles entre cités grecques se sont déroulées de cette manière. Les Grecs, d'ailleurs, l'appelaient l'otismos, la poussée. Et c'était la phalange qui résistait le plus à la poussée, qui finissait par faire reculer son adversaire. Mais en fait, parce que l'hoplite est souvent celui que l'on considère comme le combattant typique, en réalité, il y en avait bien d'autres, beaucoup plus légèrement armés, capables de mouvements beaucoup plus rapides que les hoplites, parce que les hoplites ont à peu près 30 kilos entre le casque, les jambières, le thorax, environ 30 kilos sur le dos. Donc vous imaginez un petit peu la difficulté de déplacement. Il y avait par exemple ce qu'on appelait des peltastes, qui étaient eux armés d'un bouclier en osier recouvert de cuir, et qui étaient soit archers, soit ce qu'on appelait des acontistes, c'est-à-dire des lanceurs de javelots. La technique du peltaste, c'est de s'approcher le plus près d'une phalange d'hoplites, dizaine, quinzaine de mètres, on lance les javelots, et puis on s'en va. Et on revient chercher des javelots et on fait ça. Hein. Il existait aussi des archers. L'arc grec a une portée mortelle d'environ 150 mètres. Hein. Il existait aussi des frondeurs. Hein. Frondeurs style tirer la fronde. Hein. Vous savez, c'est un sac que l'on fait tournoyer. Et il y avait des concours, c'est absolument extraordinaire. On sait que, par exemple, les jeunes grecs étaient capables de tuer un coq, par exemple, à 30 mètres. C'est vous dire, si vous voulez, l'arme redoutable que pouvait être la fronde, parce que c'était des balles en plomb. C'est-à-dire une balle en plomb lancée à 20 mètres, pouvait tuer un soldat. Le dernier point, c'était la cavalerie. La cavalerie grecque a joué un rôle très variable selon les cités. Dans les cités du sud de la péninsule, à Sparte, mais aussi à Athènes, le relief est très accidenté. La cavalerie ne joue pas un rôle considérable. Il était donc difficile de se mouvoir et de peser sur l'issue du combat. Par contre, dans le nord de la Grèce, en Macédoine notamment, il y avait de riches pâturages. On sait qu'Alexandre, par exemple, était un remarquable cavalier. Mais en Sicile, et c'est là, on touche, je dirais, un des problèmes de l'expédition Sicile, un problème militaire de l'expédition Sicile, la Sicile est une zone certes montagneuse en partie, mais surtout avec de très grandes plaines, où les mouvements de cavalerie sont facilités. Or, un des problèmes de l'armée athénienne est de n'avoir jamais eu suffisamment de cavaliers, à peu près entre 400 et 600 au maximum, contre 2 à 3000 cavaliers syracusains. Donc, si vous voulez, peut-être un manque discutable d'adaptation de la force militaire au terrain. Enfin, dernier point de l'armée, vous voyez qu'elle est extrêmement composite, c'était la marine. La marine qui n'est pas qu'un moyen d'amener les soldats sur un lieu d'expédition, mais il y a une véritable marine de guerre, et cette marine de guerre, les Athéniens avaient développé la plus importante de toutes, indiscutablement. Les Athéniens ont à ce moment-là une facilité à dominer la terre, à dominer les mers, telle que la marine syracusaine n'a jamais voulu sortir de son port. Parce qu'elle avait l'impression que, de toute façon, si elle sortait, elle serait battue. Alors, voyez un peu, j'ai essayé de présenter un peu la situation. Et les Athéniens, si vous voulez, ont quand même pris une certaine précaution. Avant de décider vraiment l'expédition, ils avaient envoyé des avisos sur le terrain pour le reconnaître, pour apprécier éventuellement les forces militaires alliées sur lesquelles ils pourraient compter. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont organisé leurs préparatifs. Préparatifs en trois points. D'abord, l'idée, c'est que les cités alliées en Sicile devaient tout faire pour faciliter l'arrivée de la flotte, en apportant, par exemple, en aménagement non pas des ports, mais des grèves, et en apportant l'argent nécessaire à la solde des troupes. Par exemple, la cité d'Egeste. La cité d'Egeste, vous voyez où elle se trouve, donc c'est sur la partie la plus occidentale de la Sicile, elle avait laissé entendre ainsi qu'elle disposait de grandes réserves en métal précieux qui pourraient donc servir pour l'expédition. Première méprise pour les Athéniens, puisque l'argent promis, on va le voir, fut beaucoup moins important que promis. Et nombre de cités, deuxième handicap, nombre de cités pourtant ennemies des Athéniens, des Syracusains, pardon, refusèrent d'accueillir l'armée. Il faut imaginer que l'armée, on va avoir, c'est 30 000 soldats qui arrivent. Et peut-être qu'une cité qui a peut-être 2 000, 3 000 citoyens, allez, si on met les femmes, les enfants, les esclaves, on va arriver à 7 000, 8 000. Vous imaginez une cité de 7 000, 8 000 habitants accueillir une flotte de 25 à 30 000 combattants. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu une certaine crainte, une certaine réticence, et on va le voir, la plupart des cités ont fermé leurs portes. Deuxième témoignage d'une certaine organisation quand même du côté des Athéniens, le ralliement. Alors, les Athéniens, comme ils avaient des alliés, n'ont pas donné, pour des raisons, si vous voulez, que nous appellerions logistiques, n'ont pas donné rendez-vous à Athènes même, ni au Pirée, mais à Corcyre. Alors, voyez où est Corcyre, Corfou, en mer Ionienne. Donc, l'idée, c'était finalement que le lieu de rassemblement de la totalité des forces soit bien mis en place dans un endroit suffisamment proche du lieu de destination pour pouvoir être efficace. Et enfin, troisième type de préparatif, entièrement nouveau cette fois, l'accompagnement de soldats par une foule d'artisans. Alors je vais vous lire deux textes. Le premier texte qui va vous donner une idée de l'importance de l'expédition proprement dite. C'est toujours évidemment tiré de Thucydide. Les Athéniens, suivis de tout leur matériel, quittèrent Corcyre et mirent le cap sur la Sicile. Ils avaient au total 134 trières. Les Athéniens eux-mêmes avaient fourni 100 trières, dont 60 croiseurs, les autres servant au transport des soldats. Le reste des navires venait de Chios et des autres alliés. Il y avait en tout 5500 hoplites, dont 1500 Athéniens. 700 têtes, c'est-à-dire des armements légers, étaient également sur les navires. Le reste était composé d'alliés, les uns des cités soumises, les autres de citoyens d'Argos au nombre de 500 et des mercenaires au nombre de 300. Les archers étaient, eux, au total 500, dont 80 crétois. Les Rhodiens avaient fourni 700 frondeurs, les Mégariens 120 soldats légèrement armés. Il y avait ensuite un vaisseau aménagé pour transporter 40 chevaux et leurs cavaliers. Alors, si vous voulez, de cette description, on peut déjà inférer quelques chiffres. Une trière est montée par 170 rameurs, auxquels s'ajoutent des soldats et des mécaniciens de bord. On peut dire, dans ces cas-là, que le corps expéditionnaire, fort de 134 unités, doit regrouper environ 27 000 hommes. La part d'Athéniens était de toute façon supérieure à la moitié, mais bien entendu, il est très difficile de dire si tous les rameurs étaient des citoyens, même si à Athènes, c'était une tradition. Il est probable d'ailleurs que de nombreux étrangers vivant à Athènes, que l'on appelle les métèques, se sont joués à l'expédition. Il n'est donc pas exagéré de dire et de penser que les Athéniens aient pu fournir la moitié environ des forces, soit entre 15 et 20 000 soldats. Il était en effet à cette époque tout à fait normal pour un citoyen, dont le principal devoir était de défendre la communauté, de prendre les armes lorsque la cité le décidait. Entre 20 et 50 ans, tout soldat, tout citoyen était requis pour le service des armes. Et à Athènes, il n'y a pas d'armes plus citoyennes que d'autres. Les marins, les fantassins, lourdement armés ou à la légère, sont tous des citoyens athéniens. Alors on imagine, les historiens pensent, si vous voulez, qu'avec de bonnes raisons, que l'expédition forme quelque chose comme 25 à 30 000 hommes. Ce qui est gigantesque à l'échelle de l'Antiquité. Mais il y eut plus. Et c'est peut-être ça qui est le plus original. Et Thucydide précise que les soldats furent accompagnés de toute une troupe d'artisans spécialisés. Je vais essayer de lire lentement parce que c'est quand même très original. Ce corps expéditionnaire, nous dit Thucydide, était accompagné de 30 bâtiments chargés de bagages et d'approvisionnement qui amenaient également des boulangers, des maçons, des charpentiers et tout le matériel nécessaire pour la construction de murailles. De plus, 100 bâtiments réquisitionnés accompagnaient les transports, beaucoup de navires de charge et de commerce accompagnaient aussi l'expédition pour faire du négoce. C'est-à-dire, le nombre de ces supplétifs, parce que là, c'est encore plus, il faut les rajouter aux 25 à 30 000 dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut souligner quand même la très grande organisation d'expédition athénienne. Alors, pour nous, bien entendu, très souvent, il est de bon ton d'opposer l'organisation rigoureuse de l'armée romaine, notamment de la Légion, à celle qui, prétendument, serait plus aléatoire des Grecs. Dans l'ensemble, ce n'est pas faux, hein, parce que plus organisée que la Légion romaine, dans l'histoire, c'est difficile de trouver. Hein. Mais on voit quand même que cette dichotomie, Rome contre la Grèce, n'est pas forcément étayée par les faits, parce qu'on voit que les Athéniens amènent avec eux des artisans. Alors certes, les boulangers ne surprennent pas beaucoup, on pense à l'intendance des armées romaines, et des armées modernes au sens large du terme, mais plus étonnante semble la présence de charpentiers et de maçons pour, nous dit Thucydide, la construction de murailles. Contrairement à ce qu'on peut penser, en effet, les constructions de murailles, qui sont destinées à protéger le corps expéditionnaire là où il va s'arrêter, n'étaient pas chose difficile ni longue, puisque l'on taillait dans les carrières proches des blocs de même calibre que l'on ajustait sans problème ensuite. Mais tout cela montre quand même l'extrême préparation de l'expédition. Donc d'un point de vue, si vous voulez, de la préparation, on peut dire que les Athéniens, jusque-là, n'ont pas fait de faute. Cela dit, et néanmoins, sur place, il y a eu quand même un certain nombre de déceptions, que j'ai évoquées rapidement tout à l'heure. Ces déceptions viennent du fait que l'importance de l'expédition, comme je l'ai souligné tout à l'heure, a fait naître très vite chez leurs alliés potentiels une crainte très forte. Par exemple, la cité italienne de Reggio, Reggio de Calabre maintenant, a refusé d'ouvrir ses portes. Il en fut de même à Messine, de l'autre côté du détroit. Ce fut ensuite le tour de Catane, toute cité théoriquement alliée, hein, qui a refusé l'entrée de l'armée athénienne, même si celle-ci parvint à s'y introduire par ruse et à s'y installer. Camarina, pourtant théoriquement alliée, refuse aussi les avances athéniennes. Ce qui signifie qu'à la recherche d'alliés, les Athéniens, plutôt que d'attaquer Syracuse, ont commencé à faire le tour de leurs alliés. Eh bien, Camarina, vous voyez, c'est au sud de la Sicile. Ils passent ensuite devant Célinonte, qui est l'ennemi, puisqu'elle est, je vous rappelle, c'est l'opposition entre Égeste et Célinonte qui déclenche en quelque sorte le prétexte. Ils ravagent les champs autour de Célinonte, puis ils contournent la Sicile. À Himère, même échec, on n'arrive pas, qui est en principe allié, ils n'arrivent pas à y entrer, et ils se jettent sur la petite cité d'Icara. Hein, ils se jettent vraiment sur la petite cité d'Icara, peut-être parce qu'ils en avaient assez de voir ces refus. Icara, qui n'était ni allié ni ennemi, qui était neutre, les Athéniens s'emparent d'Icara, détruisent la cité et vendent comme esclaves l'ensemble de la population. Population qui, évidemment, ne leur avait rien fait, mais il fallait bien commencer à payer les soldes des hommes, surtout les alliés, qui avaient accompagné l'armée athénienne, sans quoi les premières désertions eussent eu lieu. Alors vous voyez que finalement, les premiers mois de l'expédition ont été décevants pour les Athéniens, parce qu'évidemment, on s'interroge a posteriori sur cette erreur fondamentale refaite par Hannibal de ne pas avoir attaqué Syracuse. L'ennemi, c'est Syracuse, et les Athéniens ont pensé pouvoir finalement enserrer Syracuse par toute une série d'alliances militaires qui auraient ensuite convergé vers la cité, parce que les Syracusains n'étaient absolument pas préparés. L'information de l'Antiquité circule très lentement. L'espionnage n'existe pas. Et ce n'est que lorsque la flotte arrive à Région, que les Syracusains, qui en avaient entendu parler néanmoins, ont la certitude de l'attaque. L'un des stratèges de l'expédition, un troisième homme, Lamacos, propose d'attaquer de suite Syracuse, mais son idée est rejetée. Ce qui fait que tout est un échec, d'un point de vue, si vous voulez, diplomatique, l'échec est patent, et les Athéniens font tout le tour de la Sicile en navire, en bateau, donc pour se retrouver à nouveau devant Syracuse. Quelques succès militaires au départ, mais insignifiants, et puis surtout un très grave problème de nature politique. L'un des stratèges de l'expédition, Alcibiade, est requis pour revenir à Athènes. En effet, juste avant le départ, il y avait une sordide affaire de sacrilège. Sacrilège dans lequel le nom d'Alcibiade avait été cité deux fois. Soit qu'il n'ait pas eu, je dirais, une grande confiance en la justice athénienne, soit que sa conscience ne fût pas parfaitement claire, soit les deux à la fois, Alcibiade a préféré s'exiler. Grave coup dur pour l'armée, mais surtout, je dirais, pour la vision politique de l'expédition. Je vous rappelle, Alcibiade, c'était celui qui était le plus fervent partisan de l'expédition. Se retrouve à la tête de l'expédition, Nicias, qui ne voulait pas aller en Sicile. C'est-à-dire que là, on se retrouve dans un problème qui n'est plus un problème de nature militaire. Alors qu'il est un problème militaire, certes, parce qu'il y a eu des erreurs stratégiques au départ, mais là, on se retrouve, au bout de quelques mois de l'expédition, on est à la fin de l'été 415, hein, le plus fervent défenseur de la cause, celui qui avait argumenté le plus pour que soit organisée l'expédition, disparaît de la scène militaire, hein, en tout cas pour l'instant. En d'autres termes, si vous voulez, au bout de quelques mois, les conditions militaires, diplomatiques et politiques n'étaient pas réunies pour un succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais chacun a compris ici, maintenant, que je suis en train de définir, en creux, les raisons de l'échec final. Alors, le but n'est pas pour moi de faire, si vous voulez, une étude, si vous voulez, événementielle de l'expédition de Sicile. Hein. Sachons simplement que les premiers engagements militaires, comme je l'ai dit, s'ils ont un peu tourné à l'avantage des Athéniens, n'ont jamais été décisifs. C'est que, passé le moment de surprise, les Syracusains, évidemment, se sont organisés. Et ils ont profité, je dirais, de la croisière, au sens premier du terme, des Athéniens autour de la Sicile, pour mieux fortifier leur ville, pour s'assurer des concours diplomatiques et militaires en Sicile, d'abord, et puis surtout, auprès des ennemis continentaux d'Athènes, Corinthe et surtout Sparte. Sans que l'on puisse évidemment comparer quoi que ce soit, si on peut parler d'une guerre de mouvement dans la première, dans les premières années de la guerre, en 415, l'année 414 est plutôt une guerre de position qui se situe autour de Syracuse, dont les Athéniens font le siège. Alors, c'est vrai que les Athéniens reçurent à la fois de la métropole et des alliés des renforts, mais l'arrivée des renforts venus de Corinthe et surtout de Sparte a retourné la situation militaire et surtout morale. Car les Athéniens étaient partis en 414, ça faisait un an qu'ils avaient quitté leur base, n'étaient pas revenus pour l'hiver à Athènes, hein, étaient restés en Sicile. Et évidemment, la situation morale de l'armée athénienne a commencé à se dégrader, et les batailles ont de plus en plus tourné à l'avantage des Syracusains. Et notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure, la cavalerie syracusaine qui a fait de gros dégâts dans les campements athéniens et parmi les fantassins athéniens. Pendant l'hiver 414-413, un renfort militaire de 80 navires arrive en Sicile. Mais selon le mot célèbre de Corneille, l'espoir avait changé de camp et les combats avaient changé d'âme. Et d'autant plus que les Athéniens, qui, dans un premier temps, assiégeaient Syracuse, se sont petit à petit retrouvés par la construction de remparts par les Syracusains et leurs alliés, eux-mêmes assiégés. C'est en fait, on est dans un système, si vous voulez, où maintenant les Athéniens sont bloqués. Et d'autant plus bloqués qu'à partir du printemps 413, les Spartiates jouent un deuxième terrain. Ils envahissent l'Attique, c'est-à-dire la région autour d'Athènes, et installent à la fois une fortification et des soldats en permanence en Attique. C'est-à-dire qu'alors que les forces militaires d'Athènes se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres, eh bien, une très forte armée spartiate occupe et ravage le territoire athénien. Athènes ne pouvait évidemment pas tenir deux fronts à la fois, et l'arrivée des secours spartiates a définitivement fait d'abord réfléchir un certain nombre de Siciliens, de cités siciliennes, encore indécises. Beaucoup de cités, d'ailleurs, selon le mot célèbre, ont volé un peu au secours de la victoire, et ils se sont engagés hardiment aux côtés des Syracusains, dont pourtant ils étaient théoriquement l'ennemi. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les hésitations du commandement athénien ont fait le reste. Alors qu'il était sans doute encore temps de fuir et de sauver l'essentiel du corps expéditionnaire, le stratège Nicias a tergiversé. Pour vous donner un petit peu aussi ce qu'est une armée dans l'Antiquité, on tombe sur une éclipse de lune. Bon, éclipse de lune, maintenant, si vous voulez, c'est quand même assez fréquent. Et puis, on aura un petit avis dans la météo, puis c'est tout. Mais une éclipse de lune dans l'Antiquité est interprété comme un signe des dieux. Et dans ces cas-là, Nicias réunit les devins. Que penser de l'éclipse de lune? Et comme toujours, les dieux ont toujours deux voix, et c'est à l'homme de choisir. Un des devins dit « La lune est cachée, la nuit est noire, nous allons pouvoir partir sans être vus. » Un autre dit « Les dieux disent qu'il ne faut rien faire et ne pas bouger. » Nicias, de nature plutôt hésitante, choisit le deuxième parti. La flotte athénienne ne bouge pas. Le surlendemain, le corps expéditionnaire athénien est totalement anéanti ou fait prisonnier. et des milliers d'Athéniens ont fini leur vie dans les carrières de Syracuse, dans des conditions de survie absolument épouvantables. Donc, des 20 000 citoyens envoyés en Sicile, peut-être quelques centaines à peine, en sont revenus. Alors, à bien des égards, cette expédition est tout à fait exceptionnelle, je l'ai déjà dit, dans le monde de cité grecque. Exceptionnelle d'abord comme était la cité d'Athènes par rapport à ses rivales dans ce siècle que l'on surnomme celui de Périclès. Aucune autre cité grecque n'aurait été capable de mettre sur pied une offensive de cette nature en force humaine, mais aussi dans ce qu'on appelle la logistique. Et d'ailleurs, aucune autre n'aurait pu l'envisager. Car elle supposait certes un potentiel humain exceptionnel, avec 50 000 citoyens, je vous l'ai déjà dit, Athènes compte 10 fois plus de citoyens que Sparte, et surtout une organisation rationnelle, construction de navires, à laquelle les arsenaux du Pirée étaient rompus depuis près d'un siècle, construction de navires elle-même rendue possible par la présence sur place de nombreux artisans qualifiés, des moyens financiers considérables eu égard à l'époque, volonté d'impérialisme quasiment illimitée. On ne peut pas dire, dans ces conditions, que l'expédition fut mal préparée. Il y eut des erreurs stratégiques et tactiques. Et c'est là où l'historien, si vous voulez, entre, si vous voulez, dans ce qui lui plaît le plus en général, c'est de décerner les bons et les mauvais points, et surtout de dire ce qu'il lui fallut faire. Car ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des erreurs stratégiques. D'abord, l'hésitation du commandement qui n'a pas osé attaquer de suite la principale cité de la Sicile pour bénéficier de l'effet de surprise. Mais erreur tactique ensuite. Le terrain était favorable à la cavalerie et ce n'était pas le point fort des Athéniens. Il n'y eut pourtant pas de ce qu'on appelle traditionnellement le général hiver pour faire pencher la balance, même si deux hivers passés en Sicile, loin de la cité, eurent en partie raison aussi des Athéniens. Mais l'expédition de Sicile montre de toute évidence qu'une armée d'invasion a des chances de succès dans le cadre d'une forme évidemment adaptée à l'époque de ce qu'on a appelé en 1940 le Blitzkrieg. C'est-à-dire ce que les Athéniens n'ont pas pu ou n'ont pas su faire malgré une préparation pratique extrêmement élaborée. Alors je vous ai dit tout à l'heure que souvent on dit que les militaires gagnent la guerre et que les civils ou les politiques la perdent. Évidemment, pour Athènes, ce n'est pas possible. Même pour les mondes grecs, ce n'est pas possible puisque ce sont les mêmes. Il n'empêche quand même qu'on voit dans cette projection des forces des formes d'impossibilité qui sont de nature politique. Les Athéniens n'ont pas pris conscience, premièrement, comme le redoutaient un certain nombre d'Athéniens, notamment Nicias, de l'importance de l'opération. Les Athéniens ne connaissaient pas bien la Sicile. Et c'est là où, si vous voulez, l'expérience de l'expédition de Sicile peut apporter un élément. Cette expérience, c'est que sans une bonne connaissance du terrain, il est évident que le risque d'échec grandisse. Les Athéniens ne connaissaient pas la Sicile et n'ont pas su adapter leurs forces militaires au terrain. Ils ont continué de faire avec leurs forces, c'est-à-dire la marine, mais qu'une marine se batte contre des forces qui sont essentiellement des forces terrestres n'avait pas beaucoup de sens. Projection de force, oui, mais visiblement inadaptée. Et s'il doit y avoir une expérience que l'on peut tirer de l'expédition de Sicile, c'est cette inadaptation des forces militaires, même si elles étaient beaucoup plus nombreuses que leurs ennemis, les forces athéniennes n'étaient évidemment adaptées ni au terrain, ni surtout à la longueur du trajet, ni finalement à des conditions diplomatiques qu'elles n'ont pas su maîtriser. Donc vous voyez, finalement, l'expédition de Sicile, la projection des forces militaires, la projection de puissance, comme l'a dit M. Hennage tout à l'heure, c'est la projection de puissance, n'est pas qu'affaire militaire, elle est aussi affaire, je dirais, politique et aussi géographique, et c'est en cela aussi qu'une guerre est toujours une guerre totale.
Merci, professeur. Oui, mais effectivement, à vous entendre, ça laisse rêveur, parce que ça... Enfin bon, je, Je ne dirais pas des choses politiquement incorrectes dans cette enceinte, mais ça laisse rêveur pour, effectivement, quand on cherche à analyser certains conflits de notre époque, on va dire.
C'est pas un hasard si très souvent, l'expédition de Sicile est comparée par les historiens à la campagne de Russie ou à la guerre du Vietnam.
Oui. Absolument. On pense, au fur et à mesure que je vous écoutais, je pensais à des tonnes de choses. On ne peut pas s'empêcher. Hein. Je sais qu'il faut. Comparaison n'est pas raison, et a fortiori pas en stratégie, en art de la guerre. Mais on ne peut pas s'empêcher en même temps. Au fur et à mesure que je vous écoutais, bon, l'importance de la logistique, l'extrême complexité à travers toutes les époques de ce qu'on appelle aujourd'hui les opérations combinées. C'est-à-dire tout ce qui est combinaison marine-terre, avec tout ce qu'on appelle les débarquements, etc., qui sont des opérations d'une complexité technique folle et extrêmement fragile. C'est-à-dire que c'est un type d'opération qui est très facile à faire capoter. C'est vraiment, ça passe souvent à deux doigts. Hein, on voit ça dans tous les exemples qu'on peut étudier à travers les âges. Et puis, c'est effectivement ce problème politique. Politico-stratégique de se fixer un objectif atteignable, effectivement. Alors là, on pense à la campagne de Russie de 1812, mais à celle de 1941 aussi.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que on peut pas. Les fantasmes ne tiennent pas lieu de planification stratégique, en fait.
Et pourtant, si. Parce qu'en fait, ce sont les fantasmes de puissance, ce sont les fantasmes d'impérialisme, cette impression de puissance des pouvoirs impérialistes qui leur font ne pas voir les dangers d'une expédition. On est tellement conscient, on a tellement l'impression de sa supériorité qu'on ne peut pas imaginer que les autres vont nous résister.
Et ben voilà, c'est justement le problème. Les Allemands étaient persuadés que les Russes étaient des sous-hommes et qu'ils ne se battraient pas, que leur armée était nulle, etc. Et puis bon. Enfin bon, c'est immense problème. Alors cela dit, aussi, quand on vous entend, c'est fabuleux, parce qu'à chaque fois quand on vous entend, vous, quand on entend parler ou qu'on lit quelque chose sur la Grèce antique, à chaque fois, en tout cas moi, ça me fait cet effet-là, à la fois on perçoit des différences énormes. Bon, particulièrement avec l'exemple fascinant que vous avez donné au début sur le fait que les gens qui votent la guerre y vont. Ça, effectivement, ça laisse rêveur. En même temps, bon, on sent que c'est très différent de notre monde, mais en même temps, ça parle, quoi. Dès qu'on entend parler de la Grèce, ça nous parle. Je n'ai pas du tout les mêmes résonances en moi quand j'entends, même si c'est passionnant aussi, des choses sur les Aztèques, les Chinois, ou même les Romains, à la limite. Il y a vraiment quelque chose d'étonnant avec cette civilisation.
Tout notre vocabulaire politique, est d'origine grecque. Ouais. Ça ne signifie pas évidemment que notre façon de penser la politique est grecque, mais démocratie, oligarchie, aristocratie, tout ça sont des mots grecs. Ouais. Et ils ont une monarchie, enfin bon, pas à peine d'insister, mais tyrannie, tout le vocabulaire, notre vocabulaire politique est totalement, enfin en tout cas en grande partie, hérité de la Grèce. Donc c'est vrai que forcément, à la fin, ça finit par influer sur notre manière de penser.
Oui, alors bien sûr, mais je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'effectivement, si leurs réponses à un problème sont différentes des nôtres, ils ont une façon de le poser qui nous est proche. À chaque fois, c'est ça qui est étonnant. Alors que les autres civilisations, quand elles posent des problèmes, de façon y compris différente de la façon dont nous, on peut les poser. Sans même parler donc de cette question des réponses. Alors, cela dit, il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, monsieur ?
Oui, monsieur le professeur, vous avez parlé de l'expédition de Sicile comme étant la plus grosse, mais alors de l'Antiquité. Mais alors, que penser à ce moment-là de l'expédition du grand roi des Perses au moment de Marathon, qui était quand même certainement pas une petite affaire ? Et puis, dans une affaire, il y a aussi une affaire de projection dont on pourrait éventuellement parler, avant même celle d'Hannibal, c'est la tentative de projection romaine en 255 avant Jésus-Christ sur les côtes de Carthage, hein, où le général Régulus, qui a été d'ailleurs funeste au général Régulus. Est-ce que vous avez quelques mots sur ce sujet, s'il
vous plaît ? Alors, j'ai volontairement mis de côté l'expédition de Xerxès en 481-480, non pas parce que c'est des Perses et donc au sens premier du terme des barbares, mais c'est parce qu'il y a, si vous voulez, c'est une, là on est dans une guerre vraiment de conquête. Donc, si vous voulez, moi, j'ai essayé de rester un peu fidèle à une sorte de charte qui n'était pas la conquête, qui était la projection de force, dans un but qui était de nature politique. Alors, effectivement, par contre, au moment de la Première Guerre punique avec Régulus et tout, on est dans une situation qui effectivement... Mais l'importance de la tentative de débarquement de Régulus, qui, vous savez, comme chacun sait, finit prisonnier, finit exécuté, hein, dans un tonneau percé de clous, on le fait rouler, enfin bon, c'est... même si c'est peut-être pas vrai, hein, parce que ce sont toujours les historiens romains qui nous parlent des Carthaginois, hein, il faut jamais oublier ça. Hein. Donc c'est toujours très important, je veux dire que d'où vient la source, elle vient toujours des Romains. Il y a peut-être une forme d'impréparation, et puis il y a peut-être aussi, je dirais, un raid dont on ne sait pas très bien, parce que Tite-Live est quand même assez discret sur les raisons pour lesquelles il y a cette descente sur les côtes carthaginoises. Est-ce un raid de pillage ? Est-ce un raid pour essayer de faire peur, puisque le but, pour l'instant, au milieu du IIIe siècle, n'est pas de détruire Carthage, c'est plus tard que le fameux Caton, Cartaco, Delenda Est, ceux qui ont fait du latin connaissent bien, c'est quand même la Sicile. Le but, c'est le contrôle de la Sicile. Donc effectivement, voilà, on est dans une situation qui est un peu différente, mais Xerxès, bien entendu, en termes, puisqu'on parle de 200 ou 300 000 soldats, mais là, on est vraiment dans une guerre de conquête et d'occupation, comme les Perses faisaient de manière régulière.
Avec 20 000 citoyens grecs, athéniens, dans l'armée, c'est-à-dire on est en train de parler de à peu près du 40% du corps politique de la polis athénienne, on est en train de parler d'une armée qui, en fait, a un statut politique très particulier, c'est-à-dire ça a un poids en termes de souveraineté et en termes de représentativité par rapport à la polis extrêmement important. Alors, de ce point de vue, cette armée-là n'a pas, par exemple, la possibilité de siéger en assemblée, alors qu'elle est en Sicile. Les corps politiques que cette armée-là n'a pas le pouvoir de faire une assemblée et décider, par exemple, une fois que la chose tourne mal, de rentrer elle-même, ou même, et on pourrait penser qu'elle a les droits de nommer un autre général ou d'interpeller celui qui est en train de commander les opérations. Ce n'est pas une armée d'État dans le sens moderne, c'est un corps politique à l'ancienne. Donc, est-ce que, je ne me rappelle pas dans Thucydide si tout cela a une importance, on l'a vu dans d'autres campagnes de la guerre de Péloponnèse, où l'armée athénienne ou d'autres armées siègent comme s'ils étaient dans l'agora.
Exactement. Alors, le plus connu, c'est effectivement à Samos en 411, au moment où il y a un coup d'État à Athènes, coup d'État oligarchique à Athènes, où les soldats, ils sont entre 10 et 12 000, apprennent le coup d'État à Athènes, décident de s'instituer en assemblée. Hein, Hérodote dit, la cité est là où sont les citoyens. Donc, à la limite, une cité peut être itinérante. Effectivement, les Athéniens de Samos décident de destituer les magistrats qui se sont auto-désignés à Athènes et en désignent d'autres. Ce qui fait qu'il y a deux cités, à la limite. Alors, pour la Sicile, il y a dans Thucydide un moment où effectivement les Athéniens sont réunis en assemblée, mais ils reconnaissent quand même l'autorité de la cité. Donc en fait, c'est au moment de la guerre, à Samos en 411, les citoyens se réunissent en assemblée pour désigner de nouveaux magistrats et de nouveaux stratèges, parce qu'il y a à Athènes un coup d'État qui vient d'abattre la démocratie. Donc vous voyez, il n'y a pas cette défiance à Athènes, en Sicile, vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la métropole. C'est pour ça qu'il n'y a pas effectivement d'événement de cette nature où ils se réunissent en assemblée.
Moi, je voudrais aborder un point et avoir votre opinion, monsieur le professeur, à ce sujet. C'est sur le point de départ que vous avez donné sur le fait que la guerre était un état permanent naturel en Grèce, mais qui était aussi d'une certaine manière limité, c'est-à-dire qui aboutissait à des batailles d'une journée, des conflits qui restaient limités dans leurs conséquences, même dans l'affaire de Sphacterie, par exemple le fait que les prisonniers spartiates aient été finalement restitués, gardés en otage et restitués. Et la rupture que marque l'expédition de Sicile, moi, le point qui me fascine le plus dans cette histoire, c'est la montée aux extrêmes des deux camps dans leur stratégie, dans l'envoi de renforts, dans leur but de guerre même, puisque à la fin, les Syracusains ne veulent plus simplement se défendre, mais détruire la flotte athénienne, détruire la totalité des gens et faire périr la totalité des prisonniers. Est-ce que c'est vraiment une rupture
Discutablement, la guerre du Péloponnèse et l'expédition de Sicile, en est la première, est un phénomène de ce que l'historien anglais George Moss, pour la guerre de 1914-18, a appelé la brutalisation de la guerre. Effectivement, vous savez, un conflit qui 431-404, avec 5 années de trêve, il y a eu véritablement une pensée guerrière qui s'est développée. La raison est que dans les dernières années de la guerre du Péloponnèse, mais on assiste à des massacres. Des massacres qui, attention, il ne faut pas idéaliser la Grèce du 5e siècle. Les Athéniens, la démocratie athénienne a joyeusement massacré les cités qui se rebellaient contre elle. Et Périclès le premier. Périclès n'est pas que ce personnage, si vous voulez, presque marmoréen et hiératique que souvent les sources nous donnent. C'est quelqu'un qui décide à la cité de Calcis de massacrer 500 citoyens les plus éminents qui se sont révoltés contre les Athéniens. Donc c'est vous dire. Mais ça a toujours existé. Mais on sent bien que dans la deuxième partie de la guerre du Péloponnèse et la guerre de Sicile, l'expédition de Sicile, est vraiment un moment charnière. On voit bien qu'à ce moment-là, la brutalisation, ça se termine, si vous voulez, à la dernière bataille de la guerre du Péloponnèse, où tous les soldats athéniens, après la bataille d'Aigos Potamoi, sont tous massacrés. Ils sont passés au fil de l'épée. 4 ou 5 000 soldats faits prisonniers sur le champ de bataille sont tous massacrés. Ça fait évidemment écho à des massacres que 2 ans avant les Athéniens avaient faits. Donc, si vous voulez, il n'est pas question de parler des Athéniens comme des victimes de la situation. Non, en fait, on voit bien que c'est le monde grec dans son ensemble qui est l'expédition de Sicile et à cet égard marque un tournant complet dans une guerre qui est devenue. Vous avez parlé de guerre complète, mais qui devient une guerre totale. Et on voit au IVe siècle que les batailles durent toujours peu de temps. En Grèce, c'est la bataille de Chéronée qui passe pour avoir été une bataille importante, a pu commencer au moment où le soleil se lève, et elle a pu durer, d'après ce qu'on peut savoir, à peu près entre 3 et 5 heures. Ce qui est important pour l'époque. La bataille de Marathon, par exemple, à laquelle je me suis intéressé récemment, c'est peut-être, je dirais, alors là, c'est rien, quoi. C'est peut-être une heure, quoi, la bataille de Marathon. C'est très rapide, une bataille en Grèce. Très rapide. Ce qui explique, effectivement, que dans le choc entre 2 phalanges, très bien protégées en plus, les pertes ne sont pas considérables. C'est, effectivement, à partir de l'expédition de Sicile, alors là, effectivement, on se met à pourchasser. On se met à pourchasser l'ennemi qui fuit. Avant, on le laissait faire. Non, maintenant, à la cavalerie, le but, c'est d'aller massacrer celui qui s'en va, celui qui fuit. Et il y a vraiment un changement.
D'autres questions, oui ?
Une question très rapide. Vous nous avez parlé du facteur humain au niveau du commandement et des dirigeants politiques athéniens. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le camp adverse, sur les Syracusains et Spartiates ?
Alors, les Syracusains vivent à ce moment-là dans une démocratie. Donc, si vous voulez, l'idée selon laquelle les Athéniens seraient les ennemis de l'oligarchie est une erreur considérable. Les Athéniens se moquaient complètement du régime politique qu'ils avaient. C'est une démocratie. Mais c'est une démocratie fragile à Syracuse. Parce que traditionnellement, si vous voulez, il y avait eu beaucoup de tyrans. Au 6e jusqu'au 5e siècle, la tyrannie ne disparaît que vers 450. Et c'est une démocratie au sens premier du terme. Et ce sont les Syracusains qui décident, eux aussi, de faire la guerre. Ce sont aussi eux qui décident du sort que l'on va réserver aux Athéniens. Quant aux Spartiates, on le sait, c'est une oligarchie. C'est une oligarchie extrêmement serrée. Quelques familles détiennent en fait le pouvoir. Mais rien que cette remarque vous fait sentir que le régime politique dans l'affaire n'a pas eu une grande importance. Il faut quand même savoir que ce qu'on dit l'oligarchie ou l'aristocratie, c'est un petit nombre d'hommes qui dirigent. Ils sont tous citoyens. Tout le monde, simplement à Corinthe, par exemple, il y a des citoyens que l'on dit passifs, des Athéniens et des citoyens que l'on dit actifs. Le citoyen passif est celui qui est obligé de travailler pour vivre. Travailler pour vivre, c'est qu'on ne peut pas s'occuper des affaires de l'État. Donc, on ne peut pas exercer son rôle de citoyen. Mais dans l'affaire, si vous voulez, dans l'affaire, le régime politique n'a pas une importance considérable dans l'affaire, puisque vous voyez, Syracusain et Spartiate sont alliés, et il y a deux régimes différents.
Les chefs, en fait, présents alors, de ce côté-là.
Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, on voit à Syracuse l'émergence, pour la première fois, d'un stratège qui est appelé un stratège autocrator. C'est-à-dire, alors que, en principe, les stratèges, c'est un collège de stratèges, le Hermocrates est désigné stratège autocrator. Et c'est intéressant parce que, dans la foulée de l'expédition de Sicile, quelques années à la fin de l'expédition de Sicile, un autre stratège dans la guerre contre les Carthaginois, parce que les Carthaginois sont lorgnes sur la Sicile depuis le 5e siècle, eh bien, vous avez un stratège syracusain qui est désigné chef de la guerre contre les Syracusains, et ce stratège syracusain s'appelle Denis, qui à la fin de son mandat décide de mettre en place une tyrannie. Donc vous voyez, il est assez clair, les historiens sont bien d'accord sur le fait qu'à Syracuse aussi, le choc, parce que c'était une victoire, mais ça a quand même été un choc très important, hein, a certainement amené aussi à Syracuse une véritable réflexion sur la guerre, sur la défense. Et on voit bien qu'à Syracuse, la menace extérieure a plutôt amené une réponse de nature tyrannique et pas une réponse de nature démocratique. Parce que ça se poursuit ensuite. Hein. À la fin du IVe siècle, vous avez un tyran qui devient roi, qui s'appelle Agathoclès. Et puis au IIIe siècle, contre les Carthaginois, un roi de Syracuse qui s'appelle Hiéron, qui est un monarque. Et on voit bien, si vous voulez, que la Sicile, parce qu'en raison de la menace carthaginoise, a toujours été plutôt, si vous voulez, derrière un chef. Voilà. Ce que les Athéniens, devant la menace, n'ont jamais imaginé faire.
Oui, mais en même temps, enfin, moi j'ai lu sous la plume de plusieurs historiens un petit peu datés, c'est vrai, que la guerre du Péloponnèse est un peu considérée aussi comme le suicide des démocraties grecques. C'est-à-dire qu'au sortir de la guerre du Péloponnèse, non seulement pour des raisons de brutalisation et de passage vers la guerre totale que vous avez évoquée, mais également d'affaiblissement économique, etc., ça a en quelque sorte pavé la voie à la prise du pouvoir par les Macédoniens.
Oui, mais
non, enfin, je.
Non, mais si, non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas la démocratie qui a été. C'est le phénomène de la cité, parce que c'est vrai qu'à partir de l'expédition de Sicile et jusqu'à la fin, parce que la guerre du Péloponnèse se termine en 403, mais donc la Grèce est exsangue, mais en 395, la guerre reprend. Hein. Donc pour ça, il faut faire confiance aux Grecs. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en 338, au moment où Athènes et Thèbes sont réunis contre Philippe de Macédoine, on s'aperçoit que la Grèce est absolument exsangue. Athènes, dans le IVe siècle, ne dépasse pas 30 000 citoyens, alors qu'elle était à 60 000, deux fois plus, en 430. Il est sûr qu'il y a un épuisement démographique. Et Sparte aussi. Alors Sparte, c'est pire. À Sparte, en 338, il n'y a peut-être plus qu'entre 1000 et 1500 citoyens. On sent qu'il y a un effondrement, si vous voulez, de la force, mais pas démocratique, du modèle civique, oui. Du modèle militaire civique face au modèle militaire monarchique représenté par Philippe de Macédoine, puis par Alexandre.
Le IVe siècle, c'est aussi un désengagement des citoyens, justement, à cette prise de fonction du soldat, justement. Cette dichotomie entre la citoyenneté exercée et puis celle que l'on paye à travers le mercenariat, notamment.
Oui, alors il est vrai qu'au IVe siècle, un nombre important d'expéditions sont menées à Athènes par des mercenaires. Mais ce n'est pas un désengagement citoyen. C'est qu'en fait, Athènes, au IVe siècle, est en guerre tout le temps. On a fait le calcul. Entre 395 et 338, en 57 ans, Athènes a été en guerre 49 ans. Donc je ne sais pas si vous mesurez ce que ça peut représenter. 49 ans de guerre sur... Enfin, tout le temps, quoi. Or, il est évident qu'au IVe siècle, la guerre n'est plus des batailles qui se déroulent à la fin de l'été, moment pour caricaturer, au Ve siècle, on ramasse les... On moissonne, on fait les vendanges, et hop, on part en expédition militaire. Bon, pour caricaturer. Hein. Mais au IVe siècle, c'est fini. La guerre dure été comme hiver, et parfois jour comme nuit. Donc un citoyen, lui, à moins d'être, comme à Sparte, uniquement un soldat, et d'être en quelque sorte entretenu pour cela, Athènes est une cité agricole, commerciale, artisanale, C'est évident que les citoyens ont aussi, je dirais, une vie économique. Il y a ce qu'on appelle l'Athénien est un homo economicus. Et il ne peut pas, évidemment, faire la guerre tout le temps. Par contre, au moment des batailles importantes, la bataille de Chéronée, par exemple, vous avez 1000 Athéniens qui meurent le jour de la bataille. Donc ça prouve bien, qu'ils se sont battus. Alors, c'est vrai que les Athéniens passent le relais un petit peu aux mercenaires au IVe siècle, mais c'est moins dû à un désengagement, si vous voulez, à une sorte de héros maintenant ras-le-bol de la guerre, plutôt qu'à, je dirais, qu'à une guerre qui est une guerre qui est totale, démesurée, et qui dure, je dirais, 9-10 mois de l'année. Voyez, mais sur le fond, c'est vrai qu'il y a eu quand même une modification qui se passe au IVe siècle.
Oui, vous avez fait allusion à l'image de l'hoplite. Vous avez parlé de la cavalerie pour les Syracusains. Est-ce que, pendant la guerre du Péloponnèse, en fait, quand les Athéniens et les Spartiates s'opposent, c'est plutôt une guerre réglée, avec les phalanges qui se rendent dedans. Est-ce que, quand on s'oppose aux Syracusains, il y a un dérèglement, justement, de cette guerre qui va expliquer, peut-être, une rupture dans ce conflit de 30 ans, au moins d'un point de vue tactique?
D'un point de vue technique, il est sûr que, d'abord, Syracuse avait beaucoup de cavaliers. C'est sûr. Combien, on ne sait pas, mais au moins 2000 qu'ils ont pu mettre. Il y a au moins 2000 cavaliers. Et les plaines siciliennes, d'abord, sont favorables à l'élevage des chevaux et surtout, à la mobilité de la cavalerie. Or, les Athéniens, pour des raisons qui sont à la fois, climatiques, les plaines autour d'Athènes, il n'y en a pas beaucoup, mais aussi pour des raisons, idéologiques. Le cavalier, c'est l'aristocrate. Or, dans une cité qui se veut démocratique, l'aristocrate, la cavalerie, elle est limitée à la fois dans son rôle militaire et dans son rôle social. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les Athéniens n'ont jamais développé beaucoup de cavalerie. Ah. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est là où on voit que l'idéologie, c'est bien, mais quand vous avez face à vous 2000 cavaliers qui déboulent sur une armée de fantassins, bien évidemment, il y a un problème. Donc, vous voyez, là, il y a une véritable erreur. Et on peut dire quand même que ça a servi pour les Athéniens, puisque au IVe siècle, les Athéniens entretiennent toujours environ 1000 cavaliers, alors qu'ils sont arrivés au départ avec quelques dizaines à peu près de cavaliers, et c'est tout uniquement.
Cela dit, il y a aussi un problème technique du transport d'une cavalerie par une flotte de galères. Moi, j'étudie à l'époque moderne, notamment l'expédition de Crète en 1669 par les Français au secours de Venise. Et on a un groupe, c'est un siège, c'est le siège d'une ville, mais ils veulent emporter de la cavalerie. Et c'est tout juste si on leur déconseille pas, parce que les chevaux vont pas supporter la traversée. Donc il y a aussi cet aspect purement naturel des choses.
Bien sûr. Et les Athéniens avaient compté sur des alliés de la cavalerie, sur des alliés siciliens. Le problème, c'est que, j'ai essayé de vous le montrer, les cités siciliennes se sont montrées extrêmement réservées sur l'aide qu'ils avaient apportée aux Athéniens. Donc, un gros problème d'un point de vue de la cavalerie. Ils avaient certainement pensé, je pense, mais ils se sont retrouvés avec une faiblesse militaire très forte. Mais on voit, l'idée qu'il y avait au IVe siècle, les Athéniens ont une dizaine de transporteurs de bateaux transporteurs de chevaux. Donc, si vous voulez, je suis pas cheval et je ne sais pas exactement ce que ça doit faire, mais compte tenu de ce qu'était une trière, qui était quand même très 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 peu stable, c'est vrai que les chevaux ont dû arriver dans un état en Sicile ils ne sont pas tous arrivés, certainement pas tous arrivés, non ?
Non, je pense que techniquement, c'est certes quelque chose de pas facile, mais c'est pas irréalisable non plus, parce que vous parlez d'une trière, mais le Guillaume le Conquérant a franchi la Manche avec sa cavalerie. Alors c'était des drakkars un peu plus gros que ceux de ses ancêtres, mais quand même, c'est les Occidentaux qui sont partis à la conquête des Amériques avaient des chevaux qui étaient partis sur les galions ou sur les donc.
Les tapisseries de Bayeux montrent d'ailleurs à plusieurs reprises plusieurs drakkars quand même, ce sont des drakkars avec des chevaux dessus.
Oui. Non, il y a une possibilité. Alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas facile, mais ça se fait. Jusque pour parvenir à la fin au 19e siècle, on a dans les grandes expéditions, il y a ce qu'on appelle des navires écuries, véritablement, qui sont navires uniquement destinés au transport des chevaux. Une toute dernière question, parce qu'on va être obligé de rendre la salle.
C'était
Une toute petite remarque, c'est de noter le point que la projection de force partiate dans l'expédition sicilienne, c'était surtout un envoi d'experts, en fait.
Exactement.
Comme on retrouve dans des parallèles.
Exactement. Effectivement, bon, je ne vais pas signaler, mais effectivement, la troupe spartiate, c'est 700, ouais. 700 soldats. 700 soldats, mais avec un excellent stratège qui s'appelle Gilipos, comme on voudra, et qui est vraiment ce qu'on va appeler un conseiller. C'est lui qui, comme il connaît bien les Athéniens, il connaît les forces athéniennes, surtout les faiblesses des Athéniens, c'est lui qui conseille, je dirais, des attaques sur les flancs, et surtout de ne jamais sortir avec la marine. Donc, si vous voulez, c'est indiscutablement, on a des experts, ce qu'on appellerait effectivement des experts, qui s'est avéré être un expert. Je ne suis pas absolument certain que les Spartiates, en envoyant Gilipos, avaient l'idée d'envoyer ce que nous appelons maintenant un conseiller militaire.
Et la question qui est peut-être conclusive, c'est de qu'est-ce qui fait que les Romains ont réussi à prendre Syracuse alors que les Athéniens ont échoué la différence majeure.
Alors, parce que les Romains viennent de moins loin. Hein, ils sont installés en Italie. Et puis, petit à petit, ils s'installent sur les terres carthaginoises de l'Ouest. C'est-à-dire, progressivement, les Romains enserrent Syracuse. Et Syracuse devient, sous Hiéron II, dans les années 160, devient une sorte de protectorat. Et c'est à la mort de Hiéron II que, en fait, il recueille un pouvoir. Enfin, si vous voulez, c'est ce qu'on appelait au XVIIIe siècle le principe de l'étrangleur ottoman, quoi, vous voyez. C'est tout en douceur, mais qui ne laisse aucune chance à l'adversaire.
Bien, professeur, merci à nouveau. Mais rendez-vous merci à vous. Dans le mois prochain. Cette fois-ci, on reprend un cours mensuel normal. Mais par contre, pas d'ordre chronologique toujours, puisque le mois prochain, nous franchissons un grand bond en avant, comme disait le président Mao, et on se retrouve dans les années 1860 avec l'expédition de Napoléon III au Mexique. Voilà, merci.